Ok. Alors, bonjour à tous. Je reprends où on en était la dernière fois. Attendez, je vérifie que ça fonctionne parce que... Alors, s'il vous plaît. Deux trucs. D'abord, est-ce que ça y est, est-ce que tout le monde a accès à eCampus? C'est bon? D'accord. Donc, vous avez récupéré sur eCampus les fichiers audio? Oui ou non? Oui? Ok, super. Donc, à partir de maintenant, je posterai... Enfin, à partir de maintenant, je continue à poster. J'essaie de le faire dans l'après-midi, là, pour le cours d'aujourd'hui. Je posterai l'audio et le support des slides. Est-ce que vous voulez que je continue quand même à envoyer aux quatre camarades qui font le relais, au cas où? Ouais, d'accord, ok. Donc c'est pareil, hein, j'envoie juste les slides, mais comme ça vous êtes sûr de les avoir. Par ailleurs, vous avez été quelques-uns, et je vous en remercie, j'y ai été extrêmement sensible, à me signaler que j'avais des contenus à moi sur StudioQ. Donc, une des plateformes où vous partagez vos cours, vos prises de notes contre j'en sais rien. Moi, je ne sais même pas comment ils vous rémunèrent, des chèques, cadeaux, des machins. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller regarder. Je n'ai pas eu le temps de répondre à ceux qui m'ont signalé. Vraiment, je vous remercie. C'est très agréable et on manque de... Et on manque un peu de temps pour faire une veille nous-mêmes pour aller signaler. Donc, je vais aller voir. Je n'ai pas eu le temps de regarder encore. Je ne sais pas si c'est des contenus donc, de cette année au fil de l'eau, au fur et à mesure des séances, ou c'est des contenus des années précédentes. Si c'est l'un d'entre vous, je vous conseille vivement de l'enlever vite. Voilà. Et encore une fois, merci à ceux qui ont eu l'éthique de me signaler que ça figurait en ligne. Ok. Alors, on s'est arrêté la semaine dernière. Je vais reprendre un peu la présentation pour que ce soit carré pour tout le monde et qu'on attaque dans de bonnes dispositions. On s'est arrêté la semaine dernière, vous vous souvenez, sur l'idée qu'on avait identifié ce que c'était que le patrimoine, vous vous rappelez, donc cette espèce de réceptacle qui comporte les droits patrimoniaux. Et donc, on avait dit aussi en introduction du chapitre que les droits se dédoublaient, en fait, que les droits de la personne étaient de deux natures différentes. Des droits patrimoniaux qui sont dans le patrimoine et des droits extra-patrimoniaux qui sont en dehors du patrimoine. On allait donc commencer à présenter un peu les droits patrimoniaux et là encore, en fait, vous avez une subdivision. Il y a une division entre les droits subjectifs, les droits patrimoniaux, des droits extra-patrimoniaux et à l'intérieur des droits patrimoniaux, vous avez une subdivision. Subdivision qui s'opère entre les droits réels, encore une fois au sens de res, donc qui porte sur la chose, et les droits personnels qui portent sur la personne. Bon, jusque-là, aucun problème. On attaque donc la question des droits réels, ça fait l'objet d'un grand A, et à l'intérieur des droits réels, on opère une distinction entre les droits réels au sens strict et les droits intellectuels. Et je vous avais expliqué, attention, dans certains ouvrages, les droits intellectuels, ils sont traités à part, et donc en fait, dans certains manuels, vous avez trois catégories de droits patrimoniaux, les droits réels, les droits personnels, les droits intellectuels. On va en reparler tout à l'heure, mais je vous ai expliqué déjà un peu pourquoi moi, il me semblait que ça n'avait pas de sens de mettre les droits intellectuels de manière autonome, parce qu'en fait, un droit intellectuel, c'est un droit qui porte sur une chose incorporelle. Mais avant d'être incorporelle, la chose, c'est une chose. Donc c'est une catégorie de droits réels. Moi, en tout cas, je me situe dans la frange de la doctrine qui situe les droits intellectuels dans la catégorie des droits réels, mais donc ça veut dire que à l'intérieur même des droits réels, on va subdiviser entre les droits réels stricto sensu et les droits intellectuels. Donc en fait, si je reschématise pour avoir un panorama un peu générique, droits subjectifs que vous divisez en patrimoniaux et extra-patrimoniaux, on verra les extra-patrimoniaux tout à l'heure, dans les droits patrimoniaux, vous avez les droits réels, les droits personnels. Dans les droits réels qu'on va voir maintenant, vous avez les droits réels stricto sensu et les droits intellectuels. Voilà. Et donc c'est pareil, faites un schéma, subdivisez, etc. On attaque donc avec les droits réels stricto sensu et on avait commencé à dire la semaine dernière que les droits réels stricto sensu, c'est en fait les droits qui portent sur une chose corporelle qui est susceptible d'appropriation. Et on avait rappelé, et je le martèle, que droit réel, ça ne renvoie pas à une quelconque réalité, ce n'est pas le terme réel dans ce sens-là, c'est l'étymologie première du terme, c'est le droit qui porte sur une chose au sens le plus classique, c'est-à-dire sur une chose matérielle, sur une chose corporelle. Donc c'est le droit qui s'exerce sur les biens dont vous êtes propriétaire. Biens qu'on a déjà évoqués, vous vous souvenez, les meubles, les immeubles, etc. Ok. Et donc la définition du droit réel, c'est le pouvoir juridique qui est reconnu à la personne et qui s'exerce sur la chose. Une fois qu'on a précisé ça, on distingue les droits réels principaux qui vont nous occuper l'essentiel du temps et les droits réels accessoires qu'on verra très vite parce qu'en fait c'est du droit des sûretés et droit des sûretés, vous verrez ça en quatrième année. Donc c'est pas pour tout de suite. Sur les droits réels principaux. Donc si ça vous rassure sur la structuration, vous pouvez mettre un petit A sur les droits réels principaux et vous mettre un petit B sur les droits réels accessoires, mais les droits réels accessoires, ça va faire quatre lignes. Les droits réels principaux, ils donnent à leur titulaire le pouvoir de tirer de la chose tout ou partie de son utilité économique, c'est la définition que vous avez au tableau. Donc quand on dit tout ou partie, ça veut dire que pour certains droits réels principaux, vous allez tirer de la chose toute son utilité économique, vous aurez l'ensemble des pouvoirs, et pour d'autres, au contraire, vous n'aurez qu'une partie de cette utilité économique, qu'une partie des prérogatives. Comment est-ce qu'on peut dire ça autrement ? Il y a un droit réel qui est le plus complet possible par lequel on va commencer, et qui est le droit de propriété, et ce qu'on appelle ensuite des démembrements du droit de propriété, c'est-à-dire qu'on va venir piocher quelques-uns des pouvoirs qui sont reconnus dans le droit de propriété et on va les reconnaître ailleurs. Pour l'instant, c'est compliqué, on va donner les illustrations. Les deux grands démembrements qu'on va voir, sans surprise, c'est l'usufruit et la servitude. D'abord, sur le droit de propriété. Incontestablement, c'est le plus grand, c'est le plus célèbre des droits réels principaux et c'est le plus célèbre aussi parce que c'est le plus complet. C'est le plus absolu des droits réels. Il est défini à l'article 544 du Code civil. Vous avez la définition au tableau, c'est pas la peine de le noter. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Qu'est-ce que ça veut dire, cette définition-là ? Ça veut dire que le droit de propriété qui est reconnu à son titulaire, donc au propriétaire, hein, il a trois facettes. Il y a trois dimensions, trois prérogatives à l'intérieur du droit de propriété. Quand vous êtes propriétaire, vous avez cumulativement ces trois pouvoirs-là. Le premier pouvoir, c'est l'usus. L'usus, c'est le droit d'user de la chose. Voilà. Donc, vous êtes propriétaire d'un ordinateur ou d'un téléphone, vous avez le droit de vous en servir. Vous êtes propriétaire d'un immeuble. Par exemple, un appartement, on rappellera la définition de l'immeuble hein, qu'on avait vu la semaine dernière et qui n'est pas du tout un immeuble à 7 étages nécessairement. C'est un bien immobilier, quel qu'il soit. Donc, si vous êtes propriétaire d'un appartement, par exemple, l'usus, donc le droit d'user de la chose, vous permet d'habiter cet appartement. Voilà. Ça, c'est la première prérogative, c'est la première dimension, la première facette du droit de propriété. La deuxième facette, c'est ce qu'on appelle le fructus. Alors, le fructus, c'est le droit de percevoir les fruits de la chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut faire attention à ce terme, parce que c'est, pardon, c'est en tout cas partiellement un faux ami. En droit, les fruits, c'est les éléments que peuvent rapporter les biens. Plus exactement, si on prend la définition exacte, ce sont les éléments que peuvent rapporter les biens sans que la substance de la chose ne s'en trouve affectée. La définition exacte, c'est ça. Un fruit, au sens juridique, c'est l'élément qui est rapporté par le bien sans que la substance de ce bien ne se trouve affectée par cette production du fruit. Ça veut dire que c'est ce que va produire le bien, en quelque sorte. Alors, ça peut être des fruits au sens courant. Vous êtes propriétaire d'un verger, sur lequel vous avez donc des arbres fruitiers. Votre verger, donc votre chose, votre bien, va produire des fruits au sens classique. C'est ce qu'on appelle les fruits naturels en droit, en fait. C'est des fruits au sens courant, des pêches, des pommes, peu importe. Ça, c'est la première hypothèse. Et donc là, évidemment, le terme de fruit n'est pas un faux ami. le sens juridique rejoint le sens traditionnel courant. Sauf que ça ne se limite évidemment pas à ça. Si on reprend l'hypothèse dans laquelle vous êtes propriétaire d'un appartement, vous pouvez percevoir le montant des loyers qui va découler de la location de votre appartement. Vous le mettez en location, tous les mois vous allez percevoir un loyer. Ce loyer, c'est un fruit au sens du droit des biens. C'est ce qui est perçu du fait de la propriété. Parce que vous êtes propriétaire et que vous avez mis en location, ça va vous rapporter une somme d'argent qui est encore une fois en droit qualifiée comme un fruit. Donc attention au droit de percevoir les fruits de la chose, c'est évidemment pas seulement, ça le couvre, mais ça ne le couvre qu'en partie, c'est pas seulement des fruits au sens des arbres fruitiers. Et enfin l'abusus, c'est le droit de disposer de la chose. Alors qu'est-ce que c'est la disposition de la chose ? Ben, vous pouvez décider de donner votre bien à quelqu'un. Vous pouvez décider de vendre votre bien à quelqu'un. Vous pouvez aussi décider de le détruire. L'abusus, il couvre aussi le pouvoir de destruction de la chose. Tant que ça ne porte pas préjudice à autrui et que vous n'êtes pas sur un usage qui est prohibé par les lois et les règlements, on revient à la définition de 544. Typiquement, l'abusus dans le sens de destruction, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, ne peut pas s'appliquer aux animaux. C'est des choses, pour autant, si vous décidez de, si on prend le vocabulaire de droit des biens, de détruire, en raison de votre abusus, de détruire l'animal dont vous êtes propriétaire, vous serez poursuivi pénalement. Vous n'avez pas de possibilité, vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais dit, si je sors de l'ordi et que je jette mon téléphone contre le mur, bon, ben, en fait, c'est ma propriété. Typiquement, j'ai exercé mon abusus, c'est-à-dire le pouvoir de détruire la chose dont je suis propriétaire. Et ça n'engage que moi, sur un coup de sang. Si je fais pareil avec mon chien, évidemment, les conséquences juridiques ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, attention à ça. L'abusus, donc, dans le sens le plus, celui que vous rencontrerez le plus régulièrement, c'est la capacité de vendre, la capacité de donner, etc. Dans un sens qui se rencontre moins souvent, c'est aussi une capacité de destruction qui est encadrée. C'est pareil, on prend l'exemple des animaux parce que c'est le plus parlant, mais si vous êtes propriétaire d'un appartement et que vous décidez d'y mettre le feu pour une raison qui vous intéresse vous, les dommages que vous allez causer aux voisins, à la copropriété, etc., vous engagent. Voilà. Donc, l'exercice de l'abusus dans une dimension de destruction est très encadré par les lois et par les règlements, a fortiori quand il s'agit d'un être vivant doté de sensibilité, puisque c'est comme ça qu'on qualifie les animaux aujourd'hui. Voilà pour le droit de propriété. Et donc vous voyez que ce droit de propriété, il a effectivement trois facettes, usus, fructus, abusus. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le droit réel complet. Maintenant, on passe au démembrement du droit de propriété. Et bien, par définition, si vous avez compris que le droit de propriété a trois facettes, ça veut dire que les démembrements ne vont pas avoir ces trois facettes. Ils ne vont avoir que certaines de ces trois facettes. Voilà. La propriété se démembre, c'est-à-dire qu'elle se morcelle, en quelque sorte. On commence avec l'usufruit. C'est la première hypothèse. Là aussi, quand je vous dis « faites attention au sens des termes », ça va vous éviter bien des erreurs. L'usufruit, c'est assez facile de savoir quels sont les démembrements qui sont concernés dans l'usufruit. Usufruit, c'est l'usus et le fructus. C'est un démembrement parce que quand vous êtes usufruitier, vous n'avez pas l'abusus. Vous avez l'usus et le fructus, ce qui donne son nom au terme d'usufruit. En fait, ça vient de là. C'est parce que quand vous avez un usufruit, quand vous disposez d'un usufruit, donc quand vous êtes usufruitier, vous avez cette double casquette-là d'usus et de fructus. Donc vous voyez bien que vous n'avez pas les prérogatives complètes du droit de propriété, vous n'avez que certaines des prérogatives, là en l'espèce, sur l'usufruit, vous en avez 2/3. Grâce à cet usufruit, l'usufruitier, encore une fois, dans cette hypothèse-là, a l'usus et le fructus, ça veut dire qu'il a la capacité d'user du bien et la capacité de percevoir les fruits du bien. Du coup, évidemment, la question qu'on se pose, c'est sur ce bien-là, qui détient l'abusus ? On sait que c'est pas l'usufruitier par définition. Dans cette hypothèse-là, c'est le nu propriétaire. On parle plus de propriétaire parce que le propriétaire, par définition, il a les trois. Dans un usufruit, le nu propriétaire a une propriété à nu, c'est-à-dire qui se limite à l'abusus. Elle a été, si vous voulez filer la métaphore du nu propriétaire, elle a été dévêtue de l'usus et du fructus, qui vont du côté de l'usufruitier, et elle se limite à l'abusus. Donc en fait, l'usufruit, c'est une situation qui implique nécessairement plus d'une personne. Alors ça peut être deux ou plus, hein, je vais vous donner un exemple dans un instant. À minima deux personnes, un nu propriétaire d'un côté qui va détenir l'abusus et un ou plusieurs usufruitiers de l'autre côté qui vont détenir l'usus et le fructus. C'est une situation, l'usufruit, que vous allez rencontrer assez souvent dans les rapports familiaux. Par exemple, si vous avez un couple marié avec des enfants et qu'il y a un des membres du couple qui décède, l'époux ou l'épouse, ce qu'on appelle le conjoint survivant, en droit des successions, c'est-à-dire celui du couple qui reste, très souvent va être reconnu comme usufruitier, c'est-à-dire que s'il y avait un appartement, par exemple, celui qui reste dans le couple va être reconnu usufruitier, il aura l'usus et le fructus sur la chose, donc il pourra l'habiter, l'appartement, il pourra le mettre en location et percevoir les fruits, etc. Et les enfants vont être reconnus comme étant nus propriétaires. La propriété qui était complète sur la tête de celui qui maintenant est décédé va se démembrer entre le conjoint survivant d'un côté, qui va être reconnu comme usufruitier, et le ou les enfants qui vont être reconnus comme nus propriétaires. L'usufruit, contrairement au droit de propriété, j'ai oublié de le mentionner, mais le droit de propriété, il est perpétuel, c'est-à-dire qu'il ne s'éteint pas. Vous pouvez décider de le transmettre, mais le droit de propriété est perpétuel. L'usufruit, lui, il a nécessairement un caractère temporaire, il est limité dans le temps, forcément. Qui est perdu jusque-là ? Ok, ça fait un petit nombre quand même. Sur quoi vous êtes perdu ? Vous voulez que je réexplique l'ensemble de l'usufruit ? Ok. Alors on va repartir de l'exemple, puisqu'on l'a donné. Vous êtes donc dans une famille, un couple, deux enfants. Le conjoint décède, l'époux décède. Très souvent, droit des successions, vous allez investir l'épouse qui reste, donc on va appeler le conjoint survivant, d'un droit de propriété qui est dénudé, entre guillemets, et qu'on appelle donc la nue propriété, c'est-à-dire que l'épouse va se retrouver investie de l'abusus, le droit de vendre, le cas échéant, le droit de donner, ça arrive rarement, mais le droit de donner la propriété. Les enfants, eux, vont se retrouver avec l'usus et le fructus, c'est-à-dire le droit d'user de la chose. C'est le contraire. J'explique et j'explique n'importe comment. Je reprends, vous faites abstraction de ce que je viens de vous dire. Je vais mettre ça sur le dos de ceux qui arrivent, j'ai été perturbée. Ça n'a rien à voir avec vous, c'est pas de votre faute. Je reprends. Vous êtes dans une famille et le conjoint décède. En règle générale, dans les successions, comment ça se passe ? Le parent, souvent parce qu'il habitait l'appartement notamment, va être considéré, donc le conjoint survivant, comme un usufruitier. On lui laisse la possibilité, après le décès de son conjoint, de rester dans l'appartement, donc d'en user, c'est l'usus, ou alors de décider de louer cet appartement et de percevoir le loyer, c'est-à-dire les fruits, et donc de détenir aussi le fructus. Le conjoint survivant est donc l'usufruitier, parce qu'il a à la fois le droit d'user, dans notre exemple, d'habiter le bien, ou alors de le mettre en location et de percevoir les loyers, et donc d'avoir le fructus. Dans le même temps, les enfants du conjoint survivant et du défunt vont être considérés comme nus propriétaires, c'est-à-dire avec une propriété qui est départie, dont on a enlevé l'usus et le fructus, d'où le fait qu'on appelle ça une nue propriété, parce que ce n'est pas une propriété complète, et eux vont se retrouver donc avec le seul abusus, c'est-à-dire le pouvoir de vendre le bien. En gros, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que l'usufruit, c'est, et c'est pour ça qu'on parle d'un démembrement de la propriété, alors que le droit de propriété est complet et entier, l'usufruit va segmenter les trois prérogatives. Alors que normalement, quand vous êtes propriétaire, vous avez les trois sur votre tête. Vous disposez à la fois de l'usus, du fructus, de l'abusus. Quand vous êtes face à une situation d'usufruit, alors il y aura une ou plusieurs personnes qui seront considérées comme nues propriétaires et donc qui détiendront l'abusus, et une ou plusieurs personnes qui seront considérées comme détenant l'usus et le fructus et qui seront donc qualifiées d'usufruit. Donc ce n'est plus une propriété complète parce que c'est une propriété qui est segmentée. Aucune des personnes dans la situation d'usufruit ne détient les trois droits en même temps. Est-ce que c'est plus clair ? Super. Donc ça, c'est la première hypothèse, et donc je vous ai dit, l'usufruit, il est nécessairement temporaire. L'autre grand exemple de démembrement du droit de propriété, c'est ce qu'on appelle la servitude. Contrairement à l'usufruit, pour le coup, la servitude, elle, elle est perpétuelle. Donc c'est comme le droit de propriété. Sur la durée dans le temps, il n'y a pas de caractère temporaire contrairement à l'usufruit. La servitude, elle, elle est temporaire. Elle est perpétuelle. Ah, ça va pas aujourd'hui, hein. La servitude, elle est perpétuelle, pardon. Mais elle a une portée beaucoup plus réduite, beaucoup plus précise, beaucoup moins vaste que le droit de propriétaire. En gros, et je vous donne un exemple ensuite, parce que la définition est très technique, vous l'avez au tableau, hein. La servitude, c'est le droit pour le propriétaire d'un immeuble. Cet immeuble-là, on va l'appeler en droit des biens le fonds dominant. C'est le droit pour ce propriétaire du fonds dominant d'avoir un certain usage sur un immeuble voisin qu'on appelle le fonds servant. C'est technique, je vous donne un exemple pour comprendre. C'est l'exemple topique de ce qu'on appelle les servitudes de passage. Vous avez acheté une maison à la campagne, une résidence secondaire par exemple, ou une résidence principale, hein, ça ne change rien. Vous avez acheté une résidence secondaire ou principale à la campagne, et en fait, la résidence secondaire ou principale, elle est plus ou moins perdue dans les champs, et il y a juste, par exemple, un terrain à côté, et en fait, pour pouvoir accéder à votre maison, vous êtes obligé de passer par le terrain du voisin. En principe, vous n'avez pas le droit de le faire. Admettons que vous avez, j'en sais rien moi, votre maison à un endroit A, et pour accéder, pour venir garer votre voiture devant votre endroit A, vous êtes obligé de passer par un chemin, un terrain, peu m'importe, qui appartient à un propriétaire B. Ça, normalement, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas passer sur la propriété d'une personne, même si c'est pour accéder à votre bien. C'est la propriété de B. B fait ce qu'il veut de son terrain et il n'y a aucune raison que vous puissiez passer dessus. La servitude, ça sert à ça, et notamment donc ici la servitude de passage. C'est-à-dire que on va mettre en place une servitude qui fait que le voisin, l'autre propriétaire, donc le propriétaire du fonds servant, si vous reprenez votre définition, le propriétaire du fonds servant va vous laisser un droit d'usus, donc un droit d'user du passage, de passer par là, pour pouvoir accéder à votre fonds à vous, qui est donc dans la définition le fonds dominant. Je précise que ça, c'est du droit des biens, que je vous l'explique pour que vous compreniez ce que c'est que les démembrements du droit de propriété, que je ne vais pas vous mettre une dissertation à l'examen sur la servitude ou l'usufruit. Voilà, ce n'est pas le but. Vous approfondirez ça en L3 quand vous ferez du droit des biens. Ce qui m'intéresse ici, c'est que vous ayez compris que dans les droits réels stricto sensu, principaux, vous avez un grand droit qui est complet, celui-là, et quand on dit complet, c'est les trois facettes cumulatives sur la même tête ou sur plusieurs têtes réunies. Si vous êtes en copropriété, chacun est titulaire des trois sur l'ensemble. Donc les trois facettes réunies, ça c'est le droit de propriété, ou alors un droit de propriété qui va se segmenter, le droit des biens parle de démembrement, c'est soit l'usufruit parce que vous avez d'un côté le nu propriétaire avec l'abusus, de l'autre le ou les usufruitiers, avec l'usus et le fructus, et par ailleurs la servitude de passage, donc qui donne un droit d'user de la chose, la servitude est notamment la servitude de passage, il n'y a pas que des servitudes de passage, mais c'est la grande catégorie reine, qui vous donne donc un droit d'user de la chose d'autrui, dans notre exemple à nous, pour pouvoir accéder à votre bien à vous. Qui est paumé ? Pour qui est-ce que ça va ? Top. un petit B. Donc si vous voulez maintenant sur les droits réels accessoires, mais là je vais à toute vitesse. Je vous explique juste dans les très grandes lignes ce que c'est et je vous renvoie derrière au cours qui vous sera dispensé en M1. Mais pas pour tout de suite. Un droit réel accessoire, c'est un droit qui est accessoire d'une créance. C'est pour ça qu'on appelle ça un droit réel accessoire. C'est-à-dire un droit qui va venir en garantie de l'exécution d'une créance. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, vous allez souscrire un prêt auprès d'une banque. Vous êtes donc débiteur d'une créance qui est une créance de remboursement. On vous a prêté de l'argent, donc vous allez devoir exécuter, réaliser la créance, mettre un terme à la créance en remboursant le prêt au fur et à mesure. Mais la banque, qui est donc votre créancier, elle va parfois vouloir des garanties en fonction du montant que vous allez emprunter. Elle va vouloir des garanties en se disant « si jamais mon débiteur n'est plus en capacité de rembourser, il faut que j'ai un parachute, il faut que j'ai une solution de secours pour me permettre de récupérer ma créance si jamais lui ou elle, évidemment, est plus en capacité de payer. » Et bien dans ces cas-là, vous allez donner en garantie un bien dont vous êtes propriétaire. Alors ça peut être un bien meuble, si c'est un petit montant, hein, généralement ça se départira comme ça, mais vous allez donner en garantie, j'en sais rien moi, votre voiture, peu importe. Si c'est un bien meuble que vous donnez en garantie, si c'est un droit de propriété sur un bien meuble, on parlera de gage. Si vous donnez en garantie un droit de propriété sur un immeuble, par exemple vous avez emprunté de l'argent pour financer votre résidence secondaire et vous donnez en garantie la propriété sur votre résidence principale, dans ce cas-là on parlera d'une hypothèque. La différence, elle se fait sur la nature du bien donné en garantie. Si le bien donné en garantie est un meuble, on parle de gage. Si le bien donné en garantie est un immeuble, on parle d'hypothèque. Là encore, il n'y aura pas de dissertation sur le gage et l'hypothèque. Je veux juste que vous compreniez le fonctionnement. Le droit réel principal, c'est le droit qui vient sans raison d'être, qui n'est pas finalisé. Le droit réel accessoire, c'est les droits qui viennent en garantie d'une créance. Voilà. On en termine là avec la question des droits réels au sens strict et on attaque donc, là encore très brièvement, hein, parce que c'est des choses qu'on a déjà dites précédemment, mais un petit 2 très rapide sur les droits intellectuels. Alors, les droits intellectuels, encore une fois, c'est les droits de propriété. On parlera plus facilement de titularité quand c'est de l'immatériel, mais c'est les droits de propriété sur une chose incorporelle. Dans les sociétés modernes, actuelles, les droits de propriété immatérielle, incorporelle, donc ce qu'on appelle les droits intellectuels, ils connaissent un essor considérable. C'est de plus en plus important. Et pourquoi ces droits sont de plus en plus importants? Parce que leur valeur économique est de plus en plus grande. On entend parler de plein de choses, on va pouvoir donner plein d'exemples. Alors si vous allez chercher du côté de la propriété intellectuelle, qui est un peu le réceptacle premier des droits de propriété incorporelle, qu'est-ce que vous avez dans les droits de propriété intellectuelle? Le droit d'auteur, on en a déjà parlé, donc les droits sur les œuvres, les droits sur les brevets, c'est pareil. À Saclay, il y a plein de brevets qui sont réalisés en sciences dures, etc. Vous avez un droit intellectuel qui va naître sur votre invention. En droit des brevets, on parle d'invention. Donc des droits sur les inventions, des droits sur les marques. Vous connaissez les droits de marque, hein, c'est des droits qui sont protégés et ce sont des droits intellectuels parce que la marque est une chose incorporelle et donc le droit qui s'exerce dessus est un droit sur une chose incorporelle et donc est un droit intellectuel. Et puis en dehors de la propriété intellectuelle, il y a plein d'autres exemples. Les droits sur les clientèles, vous verrez ça en droit commercial. Une clientèle, c'est ce que le droit reconnaît comme étant une chose incorporelle. Donc vous avez un droit intellectuel sur cette chose. Et puis si on prend des exemples plus récents, vous avez peut-être vu passer toutes les questions de... Alors par exemple les crypto-monnaies, certains en ont entendu parler? Oui ou pas du tout? Oui, bon. par définition, la crypto-monnaie, c'est une chose incorporelle, il n'y a pas de matérialité, elle est immatérielle. Donc vous allez exercer un droit de propriété sur une chose incorporelle, sur les crypto-monnaies. Les NFT, c'est pareil. Il y a plein d'exemples aujourd'hui dans lesquels la propriété ne va pas porter sur une chose sensible, qu'on peut toucher, mais sur une chose plutôt, pour le coup, immatérielle. Donc ça veut dire que dans les droits patrimoniaux, la première catégorie, c'est les droits réels, et qu'à l'intérieur des droits réels, vous avez des droits intellectuels et des droits réels stricto sensu, soit principaux, soit accessoires, et dans les droits réels principaux, vous avez le droit de propriété et ses démembrements, usufruit, servitude. Je vous conseille vivement de faire un schéma où vous descendez la ligne comme ça. Voilà. Patrimoniaux, extra-patrimoniaux, dans mes droits patrimoniaux, j'ai quoi ? Réel, personnel. Dans les droits réels, j'ai quoi ? Réel stricto sensu, intellectuel. Dans le réel stricto sensu, j'ai quoi ? Principaux, accessoires. Et dans principaux, j'ai quoi ? La propriété, c'est démembrement. Voilà. Et vous vous retrouvez avec un arbre comme ça qui descend et vous avez la vision d'ensemble. S'il y a besoin que je vous le fasse, vous me le dites et je l'inclurai à la limite sur le dernier cours où on a dit qu'on se servirait pour répondre à l'ensemble des questions et je vous ferai le schéma moi. Mais enfin, globalement, si vous avez suivi jusque-là, il n'est pas compliqué à opérer le schéma. Vous reprenez le plan et vous descendez au fur et à mesure. Mais je pense que c'est comme ça que vous aurez la meilleure vision. Donc, si je reviens là... Non, si, hop. Vous me dites si je vous gêne. On a donc traité la question des droits réels. On a maintenant à aborder l'autre versant des droits patrimoniaux, qui est la question des droits personnels, c'est-à-dire, encore une fois, comme vous l'avez au tableau, les droits d'une personne à l'égard d'une autre personne. On a vu les droits d'une personne sur une chose, on va voir maintenant les droits d'une personne à l'égard d'une autre personne. Alors, les droits personnels, on les appelle aussi les droits de créance. Qu'est-ce qu'on entend par cette expression de droit personnel ? Qu'est-ce qu'on entend par cette expression de droit de créance ? En gros, c'est la définition que vous avez au tableau et qu'on va décortiquer ensuite. C'est le lien de droit qui existe entre deux personnes et par lequel une des personnes, qu'on va appeler le créancier, c'est-à-dire le titulaire de la créance, donc ce lien de droit par lequel le créancier est en droit d'exiger quelque chose d'une autre personne qui, elle, est tenue de l'exécution, c'est-à-dire le débiteur. Retenez que la définition, vous l'aurez sur la slide. Il faut évidemment la décortiquer, on va donner des exemples pour que vous compreniez. En gros, le droit personnel, c'est le pouvoir d'une personne à l'égard d'une autre personne. Voilà. Encore une fois, quand on a dit que le droit réel était le pouvoir d'une personne sur une chose, le droit personnel, lui, c'est le pouvoir d'une personne à l'égard d'une autre personne. Le rapport entre le créancier et le débiteur, il renvoie au lien d'obligation. C'est ce que je vous ai mis là encore sur la slide. Il y a un positif et un négatif. Quand vous êtes un créancier, ben, par définition, la créance, elle intègre votre patrimoine en positif. On vous doit l'exécution d'une obligation. Vous êtes créancier de l'exécution d'une obligation. Quelqu'un doit réaliser une obligation à votre bénéfice. Donc forcément, ça vient en plus pour vous dans le patrimoine. À l'inverse, si vous êtes débiteur, votre dette intègre votre patrimoine en négatif. Vous devez exécuter une obligation pour une personne. Et c'est un rapport à minima dual. Il y a forcément au moins deux parties. Un créancier, un débiteur, on va voir que les rôles peuvent être mutuels. Je vous explique ça dans un instant. Mais pour l'instant, retenez ça. C'est le lien de droit qui va mettre en œuvre une obligation. L'un s'engage à exécuter, l'autre va recevoir l'exécution de cette obligation. Alors, s'agissant des droits personnels, on ne peut pas faire une liste exhaustive. On ne va pas fonctionner comme pour les droits réels parce qu'il y en a beaucoup trop des droits personnels pour pouvoir dresser une liste exhaustive. Mais par contre, on peut envisager le type de rapport d'obligation et on va là encore envisager plusieurs typologies sur les modalités d'obligation qui existent pour voir ce que c'est que ce droit personnel, comment est-ce qu'il s'entend. Alors, la première distinction qu'on peut faire, c'est de distinguer selon l'objet des obligations. Qu'est-ce que ça veut dire, distinguer selon l'objet des obligations ? À quoi est-ce que je m'engage ? Ou à quoi est-ce que je m'engage si je suis débiteur ? À quoi est-ce que l'autre s'est engagé à mon égard si je suis créancier ? Encore une fois, à chaque fois, il y a deux facettes. L'un exécute, l'autre reçoit l'exécution. Si on réfléchit comme ça, selon l'objet des obligations, c'est-à-dire selon leur nature, il y a trois catégories d'obligations. Les obligations de donner, les obligations de faire, les obligations de ne pas faire. J'explique. D'abord, l'obligation de donner. Dans l'obligation de donner, le débiteur s'engage à transmettre le droit réel dont il est titulaire. Dans un contrat de vente, le vendeur a une obligation de donner. Il va transférer sa propriété du bien. Vous allez à la FNAC acheter le dernier iPhone, la FNAC a une obligation de donner, une obligation de remise effective du bien. L'obligation de donner, c'est ça. Vous allez transférer le bien, et donc vous, dans ce contrat-là, vous êtes créancier de l'obligation de donner. On vous doit la remise du bien. Ça, c'est pour les obligations de donner. Ensuite, les obligations de faire. Dans une obligation de faire, le débiteur s'engage à accomplir une prestation, à réaliser une action particulière. Si on veut le dire clairement, à faire quelque chose. En fait, là, les expressions, elles veulent bien dire ce qu'elles veulent dire. Donner, faire, ne pas faire, c'est... là, pour le coup, c'est limpide. Vous vous engagez, si vous êtes débiteur d'une obligation de faire, à faire quelque chose, donc à réaliser une prestation. Par exemple, vous êtes architecte et on a sollicité vos services dans le cadre d'un contrat, et bien vous vous engagez, par exemple, à réaliser les plans d'une maison. Voilà. À exécuter cette obligation de faire, là dans notre exemple, de faire quoi ? De faire des plans. Voilà. De fournir des plans aux clients. C'est un exemple parmi des milliers d'exemples d'obligations de faire. Mais c'est juste pour vous expliquer ce que ça peut être, pour le coup. Et enfin, les obligations de ne pas faire. Ça peut vous surprendre à première vue, en fait, ça arrive assez régulièrement. Dans une obligation de ne pas faire, par définition, vous vous engagez à un comportement d'abstention. Exemple. Vous avez acheté à un commerçant son fonds de commerce. Vous vous êtes installé dans une nouvelle ville et puis vous achetez le fonds de commerce du commerçant pour lancer une activité, reprendre son activité à lui. Dans le contrat de cession du fonds de commerce, je vous conseille vivement d'inclure une clause qui l'empêche d'installer une activité équivalente dans la même ville autour de vous. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? Admettons que vous ayez acheté le fonds de commerce d'une boulangerie. Voilà. Donc, en achetant le fonds de commerce, vous achetez aussi la clientèle. Si dans le même temps, il s'installe en face de vous, sur le trottoir d'en face, et il relance une activité de boulangerie, bah, assez aisément, si ça fonctionnait bien, et a priori, si vous avez acheté, c'est que la boulangerie fonctionnait pas trop mal, les gens vont continuer à aller dans sa boulangerie à lui. Donc, qu'est-ce que vous faites dans le contrat de cession de fonds de commerce ? Vous mettez une clause où lui s'engage à ne pas installer une activité équivalente à proximité plus ou moins directe, ça se définit dans le contrat, de votre activité à vous. Il a donc l'obligation de ne pas installer son activité, c'est une obligation de ne pas faire. Voilà. Les clauses de confidentialité, c'est des obligations de ne pas faire aussi. C'est-à-dire des obligations de ne pas parler, de ne pas révéler ce que vous avez vu quand vous travaillez. Des clauses de confidentialité, vous en verrez partout. C'est des obligations de ne pas faire, donc des abstentions. Voilà pour les trois catégories d'obligations, si on distingue encore une fois selon l'objet des obligations. Toutes les obligations qui existent relèvent nécessairement d'une de ces trois catégories. Voilà. Forcément. Vous êtes forcément face à une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire. Et les trois catégories sont alternatives. soit c'est une obligation de donner, soit c'est une obligation de faire, soit c'est une obligation de ne pas faire. Voilà. Qui est perdu là? Ça va? Ok, alors on fait une pause 10 minutes et on reprend ensuite.